accent d'Europe, Juliette Rangeval.
If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.
Bonjour, le coronavirus, le Covid-19 vient enrayer l'économie mondiale. L'épidémie a déjà des effets sur l'économie chinoise. Et en Europe, on va en parler avec notre invité, le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, Sébastien Jean. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous travaillez, vous recherchez, vous expertisez sur l'économie mondiale. Est-ce que l'Europe est déjà très touchée économiquement par cette épidémie ?
L'Europe est déjà touchée de façon inégale parce que la Chine est éloignée de nous, bien entendu, mais par certains canaux, elle y est directement liée. Par l'information d'abord, hein, c'est-à-dire qu'on le voit avec l'évolution et l'impact massif sur les bourses. Il y a une préoccupation par rapport à la situation économique en Chine et puis à sa contagion, à la l'évolution. Et ça a un impact direct sur la valorisation des entreprises. Et puis, il y a d'autres canaux de connexion. L'arrivée des touristes qui s'est brutalement arrêté. Et les touristes chinois en France, ils sont nombreux et ils dépensent beaucoup, de l'ordre de 4 milliards d'euros par an, d'après les estimations. La demande chinoise de produits européens a tout d'un coup a chuté, la production également. Voilà, donc il y a quand même un délai parce que le délai d'acheminement entre la Chine et l'Europe est, incompressible, de l'ordre d'un mois, 5 semaines. Et souvent, au fond, il est même plus important que ça. Donc, on n'a pas fini de voir l'ensemble des répercussions. Mais d'ores et déjà, elles existent.
En France, le ministre de l'Économie et des Finances a reconnu cette semaine que le virus aurait un impact très négatif sur l'économie. Bruno Le Maire est inquiet, tout comme son homologue allemand, Peter Altmaier, qui s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que le coronavirus ne mette pas en péril la croissance de la première économie européenne. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
Julien, vous êtes notre correspondant à Berlin et chez vous en Allemagne, pays champion du monde des exportations, le ralentissement de l'économie mondiale dû au coronavirus se fait particulièrement sentir.
Oui, et c'est la porte du pays vers le monde, le port de Hambourg, qui illustre le mieux les conséquences de la crise. Et cela dans les deux sens. Les portes-containers venus de Chine se font rares et le port de Hambourg tourne actuellement à seulement 30% de ses capacités, un taux extrêmement bas, jamais vu depuis la crise financière à la fin des années 2000. Et à l'inverse, les containers prêts, eux, à être exportés, n'en finissent plus de s'entasser sur les quais et la place commence à manquer. Le chiffre de 100 000 containers en souffrance est déjà avancé, une situation très inquiétante dans un pays où les exportations comptent pour près de la moitié du produit intérieur brut.
Mais Julien, il n'y a pas que les containers dans le port de Hambourg, hein. Il y a également ces immenses bateaux de croisière qui y font halte. Le secteur du tourisme est-il également touché ?
Oui, même si aujourd'hui les annulations de réservations se concentrent surtout sur les croisières en Asie, les compagnies maritimes présentes sur le port de Hambourg ont cependant réagi. Les halls d'attente, les quais sont désinfectés beaucoup plus souvent, des produits désinfectants ont été également mis à disposition. Mais jusqu'ici, la décision la plus spectaculaire reste l'annulation du plus grand salon du tourisme en Allemagne. Il aurait dû se dérouler cette semaine à Berlin, avec plus de 160 000 visiteurs venus du monde entier. Le risque a été jugé bien trop élevé.
Sébastien Jean, vous le disiez, le tourisme, c'est un des secteurs les plus touchés par cette épidémie de Covid-19, en France notamment. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui voient tout d'un coup leur économie bouleversée ?
Le second secteur le plus impacté, c'est le secteur des transports. Ça a été mentionné d'ailleurs là à propos des croisières, mais ça se résume pas aux croisières. C'est aussi le transport maritime, le transport aérien. Et il est vraiment directement impacté parce que, en fait, cette crise, disons, l'impact économique de l'épidémie est plus lié aux mesures prises pour endiguer sa contagion qu'à la maladie elle-même. Et ces mesures, elles consistent à restreindre la mobilité. Et donc, de ce fait, évidemment, tous les secteurs des transports sont directement affectés. On a parlé de salons, de foires, etc. Là aussi, c'est des secteurs qui sont fondés sur l'interaction, les échanges, et ceux-là sont directement impactés également. Ensuite, en France, ceux qui sont le plus directement touchés, en tout cas pour ce qui est des ventes en Chine, c'est essentiellement le luxe et l'agroalimentaire.
C'est pas la première fois qu'il y a une épidémie, la dernière en date venue de Chine, c'était le SRAS. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça a cet effet si fort sur l'économie mondiale? Qu'est-ce qui a changé?
Bon, d'une part, le SRAS était quand même moins grave dans son extension. C'était une maladie plus mortelle parmi ceux qui étaient touchés, mais l'extension a été moins importante, donc elle s'est révélée moins contagieuse que le coronavirus. Mais surtout, la Chine d'aujourd'hui est incommensurablement plus importante que celle de 2003. Le poids de la Chine dans la richesse mondiale, la création de richesse mondiale, en 2003, c'était environ 6%. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 16 à 17%. Donc la Chine est au cœur de la mondialisation aujourd'hui, et c'est pour ça que ça donne une dimension particulière à cette crise.
Ça veut dire que la mondialisation telle qu'on la connaît, en fait, c'est pas tellement une mondialisation, c'est une relation avec la Chine face au reste du monde?
Non, ça se résume pas à ça, je crois, mais c'est une intensification des relations économiques internationales dans laquelle la Chine a joué depuis 20 ans en particulier un rôle vraiment central. C'est aujourd'hui la première puissance industrielle et commerciale. Elle est devenue le premier exportateur mondial il y a déjà plus de 10 ans. Et puis, elle joue un rôle central dans certains secteurs particuliers, et notamment le secteur clé de l'électronique et de l'informatique. Donc ça lui donne vraiment un rôle singulier.
Mais en tout cas, la mondialisation, le commerce international a l'air de reculer. Il y a des barrières douanières, il y a des difficultés qui se créent. Il y a un produit qui symbolise un peu la mondialisation, c'est celui de la tomate en Italie. Notre correspondant Olivier Bonnel nous parle de ce produit qui est quand même lui aussi en train de changer.
Avec 4,7 millions de tonnes de tomates industrielles produites chaque année, l'Italie est un poids lourd mondial du secteur, au deuxième rang derrière les États-Unis et devant la Chine. La péninsule est coincée entre ces deux géants, le premier leader incontesté de la tomate industrielle pour le ketchup notamment, le second occupant la première place en ce qui concerne le concentré de tomates. Depuis plusieurs années, l'Italie doit se battre d'arrache-pied dans ce secteur devenu mondialisé pour défendre notamment une filière de qualité face aux contrefaçons made in Italy qui ne sont en fait que de la tomate transformée en Chine ou dans les pays de l'Est. Les nouveaux marchés sont scrutés de près par les Italiens. Ces derniers mois, c'est par exemple vers l'Ukraine qu'ils regardent avec inquiétude. Kiev veut en effet augmenter massivement sa production de tomates ces 5 prochaines années, mais pourra l'exporter à moindre coût sur le marché européen pour des raisons humanitaires, alors que les importations de tomates italiennes sont taxées à plus de 14% sur le marché ukrainien. Si l'Italie peut encore compter sur sa réputation, la qualité de ses tomates et son savoir-faire, elle doit composer néanmoins avec un coût de production encore très élevé par rapport à ses concurrents et doit aussi affronter l'infiltration de la mafia dans les champs de tomates qui exploitent les migrants. Pour que le pays reste un acteur solide du secteur, la ministre italienne de l'Agriculture, Teresa Bellanova, a promis prochainement une grande campagne internationale pour vanter la tomate de la péninsule, une tomate de qualité et produite de manière éco-responsable.
Comment est-ce qu'on voit, Sébastien Jean, cette mondialisation se modifier ces dernières années? On le voit là avec la tomate, on change un petit peu de partenaires, de pays avec lesquels on travaille, on change de méthode de production.
Ce que montre bien votre reportage, c'est notamment le fait qu'il y a une spécialisation croissante sur les points forts. Ça, c'est un peu la base de la division du travail qui est à l'origine de cette mondialisation. Dans un cas comme l'Italie, la tomate, c'est effectivement un avantage comparatif. Et qui plus est, la tomate de qualité, ce qui était rappelé aussi. Donc, c'est leur créneau et du coup, ils se développent. Quand on se spécialise plus sur un secteur, on est aussi plus exposé aux changements dans la concurrence de ce secteur, ce qui se passe dans les autres pays, et c'est aussi ce qui a été mentionné là. Ensuite, je crois que on est arrivé à une phase où la situation de politique internationale en particulier a profondément changé, la situation géopolitique et l'espèce d'hyperdomination américaine après la chute du rideau de fer maintenant arrive un peu à son terme, dans le sens où on est dans une situation où il y a plus d'équilibre des pouvoirs, on est dans une sorte de multipolarité avec une rivalité forte et assez structurante qui émerge entre les États-Unis et la Chine.
Est-ce que les Européens, eux, est-ce qu'ils arrivent à rééquilibrer? Dans quel sens est-ce qu'ils vont aller pour ce rééquilibrage?
L'Europe est une puissance paradoxale dans la mondialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays, donc elle n'a pas la cohésion politique, ni la puissance politique, ni militaire d'ailleurs, que peuvent avoir la Chine et a fortiori les États-Unis. Mais dans le même temps, c'est une superpuissance industrielle. Et il faut pas croire qu'on est victime ou qu'on est complètement désindustrialisé en Europe. On n'est pas du tout comparable aux États-Unis de ce point de vue-là. Il y a des déséquilibres en Europe et évidemment en France, on est beaucoup moins bien placé sur les secteurs industriels que l'Allemagne. Mais l'Europe prise dans son ensemble est une grande, voire la grande puissance industrielle dans le monde avec la Chine. C'est aussi une très forte puissance en termes réglementaires, d'établissement des normes et des régulations qui régissent, eh bien, la protection, l'information des consommateurs dans le domaine sanitaire, dans le domaine technique, dans le domaine de protection des données aussi. Et là-dessus, l'Europe joue un rôle particulier parce qu'elle a une approche souvent plus exigeante que les États-Unis, parce qu'elle a une capacité à régulée qui est plus forte, et c'est souvent elle aujourd'hui qui donne le ton. On s'en rend pas forcément bien compte aujourd'hui, mais sur un certain nombre d'aspects, on peut en citer beaucoup, mais le principe pollueur-payeur par exemple, l'enregistrement et l'information sur les denrées chimiques présentes dans les produits, les règles sanitaires pour beaucoup d'aliments, et bien là-dessus c'est l'Europe qui donne le ton.
Et en France, leader mondial de la production de lin textile avec la Belgique et les Pays-Bas, on parle là de 80% de la production mondiale. Les savoir-faire des tisseurs se sont délocalisés en Chine principalement, qui fabrique 80% des tissus. Ils reviennent ensuite en Europe pour être taillés, cousus, vendus. C'est le parcours du produit mondialisé par excellence. Mais aujourd'hui, l'industrie du lin tente de reconquérir les consommateurs avec un retour au Made in France, des circuits courts, plus écolo, plus sûrs. Et l'arrivée du coronavirus, là, pourrait accélérer le processus. Exemple en Alsace avec Robin Dussel.
Implanté dans le petit village d'Irzing, à une demi-heure de la frontière suisse depuis 1856, l'entreprise Emmanuel Lang fait partie du paysage. Spécialisée jusqu'au début des années 2000 dans le tissage du coton, la société alsacienne a investi l'année dernière près d'1 million d'euros dans une filature de lin. Christian Didier est le directeur de l'usine.
Donc on va acheter du lin chez les tailleurs en Normandie, sous forme de ruban, et on va faire du fil sur les continuums à filer ici. Le process de fabrication, c'est simplement l'affinage du ruban et ensuite la torsion d'assemblage pour avoir un fil.
Au bord de la faillite en 2013 avec 9 salariés, la société comptait jusqu'à 1000 employés dans les années 70. Depuis la reprise, elle s'est recentrée sur les filières naturelles, le chanvre, l'ortie et donc le lin. Alors quand Pierre Schmitt, le nouveau PDG, apprend qu'une filature de lin est à vendre en Hongrie, il n'a pas hésité bien longtemps.
Le Hongrois a été pris en sandwich entre des clients qui voulaient des prix de plus en plus bas et la matière première qui augmentait. Donc pas moyen de résister à tout ça. Nous, on avait déjà une stratégie différente d'inclure cette filature dans notre filière pour valoriser le tissu complet. Et c'est là où on a pris la décision d'aller en Hongrie. Très rapidement, on a sauté dans le premier avion qui était disponible et sur place, le même jour, on a décidé d'acheter ces machines pour pouvoir évidemment organiser le rapatriement.
Avec un objectif de 150 tonnes de lin transformé par an, la filature alsacienne s'est emparée d'un pour mille du marché mondial. Une part qui peut sembler dérisoire face aux géants chinois du secteur, mais pour Pierre Schmitt, l'essentiel est ailleurs.
À un moment donné, on s'est rendu compte de notre responsabilité collective au niveau de la filière. Parce que finalement, on importe du coton qui pollue toute la planète au niveau de la consommation d'eau, des pesticides, et on valorise pas la matière première d'excellence qu'est le lin, qui est vraiment un exemple écologique de premier plan. Donc quand vous êtes dans cette situation et vous connaissez ces éléments, le fait de ne rien faire, c'est de se rendre coupable, de cautionner ça. Donc on avait vraiment la responsabilité et le devoir de se dire, on va arrêter cette gabegie, on a la possibilité une fois pour toutes de réhabiliter une filière complète et de se réapproprier le savoir-faire.
L'avenir du textile français passe-t-il donc par le lin? En tout cas, selon les dirigeants d'Emmanuel Schmitt, il répond à des impératifs d'écologie et de circuit court. Cette plante méconnue en Europe de l'Ouest est vertueuse et elle plairait de plus en plus aux clients.
Pour avoir juste terminé des salons en Allemagne, à Milan et à Paris, ça fait le buzz. Parce que effectivement, depuis des années, les gens sont devenus fatalistes. Donc le fait de découvrir cette matière première, et en plus une belle matière première, avec des touchés extrêmement doux, c'est un lin qui séduit de nouveaux clients. Il n'y a pas une seule marque moyen haut de gamme qui est insensible à cette qualité.
Parmi ces marques, on peut citer le tailleur Hugo Boss, l'enseigne de prêt-à-porter IKKS ou encore la maison de haute couture Chanel qui travaille à l'élaboration d'un tissu en soie et en lin. Des entreprises basées en Allemagne, en Italie, en France et même au Japon qui pourraient retracer l'origine des produits, et ce même en cas de coronavirus.
J'étais il y a 2 semaines en Allemagne au salon de Munich. Nous avons parlé avec un gros client allemand qui s'appelle Brax, qui est le leader du pantalon féminin et masculin. Et il est extrêmement inquiet du sourcing chinois. Et on lui a tout simplement répondu, bah, écoutez, vous voyez où se trouve la Normandie, vous voyez où se trouve l'Alsace. Quelles que soient les catastrophes sur la planète, nous, on peut livrer. Et le fait de pouvoir aujourd'hui garantir la sécurité de livraison change radicalement la donne.
L'entreprise Emmanuel Lang est convaincue du potentiel énorme du lin, un challenge synonyme d'activité économique et donc d'emploi, comme le rappelle Christian Didier, le directeur du site d'Irzing.
On était 19 fin novembre 2019 et aujourd'hui on est déjà 25. Il faut qu'on se staffe un peu au niveau de la filature. Et ensuite, à fur et à mesure qu'on va monter en puissance également au tissage, ben, on va également embaucher quelques personnes. J'estime que l'effectif devrait être entre 30 et 40 personnes.
Et la filature a pour objectif de transformer quelques 1000 tonnes de lin d'ici 2 à 3 ans.
Le coronavirus, on l'entend, hein, pourrait modifier le visage de la mondialisation.
Cette pandémie du coronavirus va avoir un effet structurant, un effet transformateur sur la mondialisation. Je pense que la question reste ouverte aujourd'hui, mais je crois que c'est très plausible. Surtout parce que elle révèle des fragilités, des risques que d'autres éléments du contexte soulignaient l'importance déjà. Je pense aux tensions géopolitiques dont on vient de parler, qui ont montré que il faut se préoccuper de la diversification géographique et des risques qu'elle fait encourir. Et puis, vous avez mentionné aussi la crise climatique, et c'est une autre dimension. Je pense que cette épidémie de coronavirus, elle révèle une nature différente du risque. Le risque, il faut garder en tête, évidemment, que la gestion du risque est au cœur de la planification stratégique de toutes les entreprises. Elles n'apprennent pas qu'il y a un risque. Mais en revanche, ce qui est difficile, c'est d'avoir une bonne appréciation du risque. Et je pense que cette crise peut modifier le regard qu'on porte sur le risque. Les entreprises ont tendance à réfléchir en termes de risque fournisseur. Qu'est-ce qui se passe si un fournisseur fait défaut d'une façon ou d'une autre? Et là, elles sont face à un risque soudain de grande ampleur qui ne touche pas un fournisseur, mais l'ensemble des fournisseurs sur un territoire donné. Et ça peut modifier la perception qu'elles ont du risque, un peu d'ailleurs comme la crise financière a modifié la perception que les prêteurs avaient du risque qu'ils encouraient par rapport à leurs emprunteurs.
Et est-ce que ça peut faire baisser la pollution? On voit là en ce moment qu'il y a moins de pollution
alors,
carbone.
Bon, on le voit. Je pense que il faut pas se faire d'illusions. Ça, c'est un effet absolument temporaire et il y aura pas de bénéfice ou guère, je pense, de bénéfice durable. C'est une réduction de la pollution et de la production complètement désordonnée. Et qui plus est, il y aura des efforts ensuite pour rattraper le terrain perdu qui, si ça se trouve, se feront de très mauvaises conditions environnementales en termes d'intensité de la pollution qu'elles vont émettre. Donc, je me garderai d'en tirer trop de spéculations sur les bénéfices qu'on peut espérer en tirer en termes de baisse de pollution.
Est-ce qu'on sait combien de temps déjà on va vivre avec les effets de cette épidémie de coronavirus? C'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Oui, c'est trop tôt pour le dire parce que en particulier, on voit que la Chine semble avoir passé un pic épidémique, son pic de contagion. Maintenant, les autorités chinoises essaient de remettre la Chine au travail, en tout cas en dehors de la région qui est le foyer épidémique, la région du Hubei. Et le test des prochaines semaines, ça va être d'observer si cette remise au travail peut se faire sans provoquer une nouvelle flambée de l'épidémie. Si c'est le cas, on aura eu probablement une épidémie relativement limitée dans le temps, hein, puisque en gros, elle a commencé vraiment à se diffuser fin décembre, début janvier. Et là, le pic a été probablement en termes de rapidité de la diffusion de la maladie, probablement autour du 20 février. Et puis là, on est sur un déclin qui va pas être immédiat. Hein, mais donc, on aurait une crise relativement limitée dans le temps et on peut espérer un rebond relativement rapide. Mais s'il y a des rebonds importants en Chine, et possiblement ailleurs aussi, parce qu'on voit que la maladie se propage ailleurs rapidement. Là, on aura des impacts économiques probablement beaucoup plus durables.
Merci beaucoup, Sébastien Jean, directeur du CEPI, invité d'Accent d'Europe. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.